Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Koudak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce aux social ads et à la créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Koudak, vous pouvez vous rendre sur le site koudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode des Bruts e-commerce. Cette semaine, un nouvel invité. Je reçois Olivier de Petit Picotin. Comment tu vas, Olivier ?
Impeccable. Merci Théo pour l'invitation.
Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir, d'autant qu'on va pouvoir parler de sujets très intéressants pour l'e-commerce, puisqu'on l'a préparé ensemble. Je pense qu'on va pouvoir aborder pas mal d'angles, notamment un des angles que je voulais aborder depuis un certain temps, et je me rends compte, j'ai reçu il n'y a pas longtemps My Jolly Candle dans le podcast, qui a un fonctionnement assez similaire, enfin du moins à une partie de votre business, qui est le fait que la majorité des produits soient offerts en cadeau, et tout ce que ça implique derrière sur le business model. Donc ça sera un des trucs qu'on aura l'occasion d'aborder, mais aussi notamment Instagram, comment vous êtes développé, et avec les nano-influenceurs, la stratégie du cadeau, Facebook Ads, le fait que vous soyez aussi arrivé en physique, enfin bref. On a un programme assez chargé. Mais d'abord, je vais te laisser du coup te présenter rapidement et représenter ce que fait Petit Picotin pour qu'on ait bien tous les mêmes informations.
Super, merci Théo. Et ben, Petit Picotin, donc c'est une marque d'accessoires et de décoration pour enfants. Donc on a 5 ans et demi d'existence. On a été lancé en septembre 2016. C'est une marque familiale. On est deux cofondateurs avec ma femme. On est 13 actuellement dans l'entreprise. Et en gros, on propose des accessoires qui vont du petit sac à dos à la trousse de toilette, aux protège carnet de santé et à de la décoration, donc des coussins, en partant aussi dans l'univers du bain, une cape de bain, un peignoir, etc. Notre particularité, c'est que on travaille avec du lin français, du linge de coton biologique, on fait fabriquer au Portugal et on personnalise dans notre atelier à Nantes et on envoie directement aux consommateurs. Donc on est très local, complètement intégré, logistique et beaucoup de choses intégrées et voilà. Donc fier d'être de parler un peu de Petit Picotin avec toi aujourd'hui.
Ok. Et pour ce qui concerne un petit peu ton histoire à toi, du coup, tu as quel background ?
Alors moi, j'ai rejoint l'entreprise officiellement il y a 2 ans et demi. Avant, donc on s'est rencontré avec Astrid à l'EDEC et en école de commerce. Sauf qu'elle, après, elle a pris la voie mode. Elle a fait l'Institut français de la mode et ensuite chef de produit chez Comptoir des Cotonniers avant de lancer la marque. Et moi, j'ai plutôt finance-gestion et donc audit interne. Et puis 7 ans chez Leroy Merlin où j'étais directeur de magasin avant de rejoindre Petit Picotin, donc management, gestion, business, voilà, pas mal de choses qui me servent bien aujourd'hui.
Ok, et qu'est-ce qui a motivé cette décision du coup de rejoindre le projet alors que du coup c'est pas toi qui en étais à l'origine ?
Ben, la décision, elle est que la boîte a pas mal grossi et assez vite et en fait Astrid s'est super bien débrouillée, sauf qu'à un moment elle arrivait à un stade où elle faisait plus ce qu'elle aimait, enfin elle faisait pas que ce qu'elle aimait, c'est-à-dire la création du produit, la com, le market, la brand, et elle était à gérer une équipe, gérer des achats, gérer une stratégie et une gestion d'entreprise. Et là où c'était vraiment moi, mes compétences et en plus l'envie de travailler ensemble, enfin c'est quelque chose qui nous titillait depuis pas mal de temps, parce qu'évidemment le business on en parlait à la maison le soir, à peu près tous les soirs, et qu'on était complémentaires. Et chez Leroy Merlin, voilà, je m'éclatais, c'est une super boîte, mais l'envie d'entreprendre était assez forte et voilà, et aujourd'hui ça fait 2 ans et demi, on est vraiment super content.
J'ai envie de faire du coup qu'on soit bien clair sur la période où t'étais pas encore dans la boîte, donc c'est 2 ans et demi, parce que c'est 5 ans Petit Picotin, c'est ça au total ?
Ouais, c'est un peu plus de 5 ans, ouais.
Quand t'es arrivé chez Petit Picotin, qu'est-ce qui avait déjà fonctionné ? Quelle taille faisait la boîte ? Enfin, et c'était quoi les challenges ? Qu'est-ce qui avait, voilà, quelles étaient les problématiques ?
Quand je suis arrivé, donc je suis arrivé en novembre 2019, donc avant Covid, on était déjà sur une bonne traction. La problématique principale qu'on avait, c'était d'accompagner la croissance. Et donc, qui dit accompagner la croissance, on reste un commerçant, donc et on fait faire, donc on source notre lin dans le nord de la France, on l'envoie au Portugal, on fait teindre nos couleurs, on fait fabriquer nos produits. Donc la gestion des achats dans du commerce, comme tout le monde connaît, c'est assez, ça demande du temps, ça demande d'être automatisé, enfin des process à mettre en place. Et typiquement, c'était le gros enjeu, quoi. On était tout le temps en rupture de stock, enfin on n'arrivait pas à accompagner la croissance. Et Astrid, elle avait pas le temps de tout faire. Donc on était déjà, quand je suis arrivé, il y elles étaient 4. Et donc moi 5 et voilà, donc du coup je me suis très vite j'ai délesté Astrid de toute cette partie là de la partie gestion, pilotage, RH, et puis parce qu'on gérait la logistique en interne, donc gestion de la logistique, et puis après recrutement, c'était nos gros enjeux, et voilà. Et donc elle, ça lui a permis de se recentrer sur le produit, continuer de communiquer continuer de communiquer différemment, et pour être toujours une marque avec, enfin, ce qu'on apprécie chez Petit Picotin, en tout cas c'est nos clients qui le disent, c'est des jolis produits, c'est utile, c'est pratique, et dans des qualités durables, et en fait de rester sur cette vague là parce que c'est aussi notre ADN. Et donc Astrid, comme ça, elle pouvait vraiment se concentrer. Donc ce qui a vraiment changé, c'est la structuration de l'entreprise.
Ok, t'es arrivé à cette phase qu'on qualifie dans la Startup Nation de scale, exactement. Un petit peu, donc, au besoin de structuration et pour continuer à faire grossir. Et donc aujourd'hui, donc 2 ans et demi après ton arrivée, la boîte, enfin, ça en est où sur sa courbe de croissance ?
2 ans et demi après, on fait 4 fois ce qu'on faisait. Donc novembre 2019, ouais, on avait dû envoyer, 2019, on a dû envoyer 15 000 commandes, je pense. 15 000 commandes, et 2021, on en a envoyé 60 000. Voilà, on est 13 aujourd'hui. On a même réinternalisé une partie de notre logistique. Et encore de beaux défis. Entre-temps, on a fait un pop-up, on en parlera sûrement, pendant 4 mois, donc du commerce physique. Moi, je connaissais bien. Pas mal de belles avancées, c'est vrai, quand on regarde 2 ans et demi en arrière. Et encore plein de gros challenges à relever. Donc, hyper enthousiasmant. En tout cas, nous, c'est du kiff au quotidien.
Vous voulez aller où, du coup, dans les années qui arrivent ? Il y a une target en nombre de commandes ?
Franchement, il y a le nombre de commandes, évidemment, parce que ça, c'est notre modèle historique. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et c'est comment on se fait connaître différemment, aussi bien dans notre modèle B2C que dans notre modèle B2B ou retail direct avec nos magasins. Et qu'en fait, on ne se met pas vraiment de limite. On ne fait pas cette boîte pour se dire on veut faire tant et après, parce qu'on est en autofinancement. Non, on veut voir loin et on veut voir grand, donc pas de limite. Je pense que rapidement on peut arriver à 100 000 commandes et après les autres leviers, aller chercher les autres leviers en physique ou même à l'international. On commence à faire déjà un peu moins de 10% à l'international. On sent qu'il y a des gros leviers à aller chercher là-dessus, et voilà, c'est plein de challenges hyper excitants, quoi.
Ok, bon, moi je vais, du coup, tous ces challenges, je vais les reprendre dans l'ordre chronologique un petit peu, et en commençant par ceux que tu as commencé par récupérer quand t'es arrivé chez Petit Picotin. Donc le premier dont j'ai envie de parler, j'en parle malheureusement beaucoup trop peu dans ce podcast, c'est tout ce dont tu parlais sur la logistique, que si j'ai bien compris, a été d'abord internalisée, puis externalisée, puis un petit peu réinternalisée, c'est ça ?
En fait, c'est comment on a commencé. Franchement, Astrid, elle a commencé, elle était dans le salon. Donc voilà, avec tout ce que ça comporte d'avoir une marque qui a des produits physiques dans un salon, bref. Donc du coup, on a commencé comme ça, et après on a eu des bureaux, elle a eu des bureaux dans le 17e puis dans le 9e, on était rue Mansart à Paris, avec un atelier et des bureaux au rez-de-chaussée avec une belle vitrine et des stocks en dessous. Et puis il y avait 50 mètres carrés de stock et 75 mètres carrés d'atelier et de bureau. Et l'atelier nous permettait, en fait, de personnaliser. Et ensuite, on travaillait avec Cubine qui faisait la collecte et qui récupérait les colis et qui les shippait une fois que nous, on avait déjà tout préparé. Et donc, en gros, on avait ce modèle-là. Mais quand je suis arrivé, très vite, bah, on était en très forte croissance. 2020, on fait un peu plus de fois deux. Donc, du coup, le stock, bah, très vite, ça a été un problème. Donc là, on s'est dit, bon, comment on fait ? Parce que on a la personnalisation en interne, on a les stocks encore en interne, pas les expéditions. Et en même temps, après avoir sourcé, on s'est dit, mais aujourd'hui, soit on l'externalise, mais avec tous les avantages et les inconvénients que ça génère, soit on le garde en interne. Et en fait, on l'a gardé et on l'a même internalisé un peu plus loin, j'y reviendrai, en se disant, de toute façon, le cœur de notre business, ça reste la qualité. Aussi bien la qualité des produits, la qualité de nos visuels, de l'inspiration, et la qualité aussi de ce qu'on délivre. Et quand on a sourcé des fournisseurs logistiques, aucun ne fait ce qu'on fait. Et donc on s'est dit, bah, en fait, on va pouvoir former quelqu'un d'autre, mais à quoi ça sert ? Parce que de toute façon, on n'a pas, enfin, ça se gère très bien en interne et on n'a pas de souci là-dessus. Donc on s'est dit, bah, on le garde. Donc on a gardé la personnalisation, mais pour autant, on avait quand même plus de place pour le stock. Donc on a sorti notre stock. On avait un gars qui nous amenait le stock tous les matins, on personnalisait, et après un autre gars donc Cubine, qui venait et qui mettait en paquet. Donc un peu compliqué, un peu hybride. Et là, en revenant à Nantes, en arrivant à Nantes en septembre, on a dit bon bah en fait on sait très bien gérer notre logistique, on stocke, on personnalise et on expédie tout seul.
Mais donc comment tu fais, quoi? Vous avez voulu un entrepôt et vous avez des personnes en interne qui s'occupent des envois?
Ouais, on est à côté de Nantes, on a 1000 m² là, avec une partie entrepôt, une partie atelier, et l'atelier fait aussi bien la personnalisation et l'expé. Donc on a brandé nos cartons, enfin comme ce que font les logisticiens, hein, on a brandé nos cartons, nos pochettes, et on travaille avec une boîte qui nous permet de tout avoir en mobile, donc on est en téléphone pour expédier nos commandes, et ça se fait très bien. Et en fait on est dans une activité aussi où on n'a pas de très très forte fluctuation. On fait pas de soldes, on n'a pas de collection, donc t'as pas la nouveauté qui arrive, les soldes de l'ancienne collection, etc. On est sur un business qui est plutôt en croissance linéaire, avec bien sûr la rentrée des classes et Noël, qui sont deux pics, mais qui gèrent assez bien.
Et c'était quoi le point qui posait problème? Tu disais les prestataires ne faisaient pas ce qu'on faisait. Est-ce que c'est juste la personnalisation?
En fait, ça paraît simple, parce que en soi, c'est pas compliqué, on fait pas décoller des fusées. Hein. Mais sauf que aujourd'hui, ce que font les prestataires, c'est de la broderie. Globalement, les prestataires logistiques, ils font de la broderie. Il y a plein de marques, on a visité des prestataires logistiques qui font de la broderie. Par contre, ce qu'on fait, le transfert, ils le font pas. Parce que c'est un peu plus compliqué, parce que voilà, c'est un peu différent. Et en fait, quand on en a visité, certains, ils nous ont dit « bah non, on fait pas ». Mais d'ailleurs, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que si on fait comme ça, si on vous rentre, on pourra le proposer à d'autres. Et là, on s'est dit « bon ». En soi, ton produit qui devient mainstream, enfin la personnalisation, et c'est pas notre vision long terme, elle est pas que sur la personnalisation, mais c'est comme ça qu'on est rentré. Aujourd'hui, on est quelques-uns à le faire. Finalement, autant essayer de retarder l'échéance et qu'il y en ait d'autres qui arrivent, mais un peu plus tard sur le marché, quoi.
Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une marque qui veut faire de la personnalisation via transfert, du coup, sur vêtements, etc., n'importe quel objet. Il n'y a personne en France qui est capable de le faire.
Si, il y a plein d'acteurs, mais pas d'acteurs logistiques. Il y a plein d'acteurs qui le font parce que souvent, c'est dans l'univers des cadeaux, enfin des trucs d'entreprise, des t-shirts pour des assos, pour des événements, des choses comme ça. Donc il y a plein de marques qui le font. Tu as plein de marques également sur le web qui le font, type Monsieur T-shirt, type Atelier Katanga, etc. Mais c'est pas c'est des marques qui gèrent en interne tout ça. Des logisticiens dont le métier à la base c'est la logistique qui proposent ce service additionnel, j'en ai pas rencontré, mais après des logisticiens il y en a quand même pas mal, j'en ai pas rencontré qui nativement le font, enfin, ou en tout cas qui savaient le faire. Et beaucoup m'ont dit, bah nous ça nous intéresse d'ailleurs de savoir le faire. Mais la broderie c'est fait, c'est faisable, en tout cas dans l'univers du textile, il y a un gros acteur logistique textile qui le fait. Mais qui ne fait pas la personnalisation par transfert.
Quand tu es arrivé à reprendre le sujet logistique, c'est un chantier qui a duré combien de temps? Est-ce que c'était un truc rapide? Tu t'es dit, hein, quelques semaines, tu l'as corrigé, ou alors c'est un truc qui t'a pris des plombes?
En fait, Astrid, elle a deux grandes forces, enfin, elle en a plein, mais elle est très créa et très forte là-dessus. Mais elle est aussi hyper forte sur l'optimisation, le process, etc. Et donc quand elle a lancé, très vite, elle est rentrée dans un process logistique en interne, alors qu'il n'y avait que deux personnes, mais parce que elle a été baignée dans l'éducation de l'efficacité. Et donc du coup, c'était efficace. Donc il y avait déjà plein de choses qui étaient bien mises en place. Et après, l'idée, ça a été plutôt d'automatiser pas mal de choses pour se dire bah, comment demain, on a des pics, on les absorbe. Et aujourd'hui, on est encore à réfléchir à comment on automatise encore plus nos process logistiques. Mais franchement, en termes de timing, combien de temps ça m'a pris, c'était assez facilement... compréhensible et après ça s'est fait au fil de l'eau d'externaliser les stocks, enfin c'est des rencontres de certaines entreprises logistiques avec qui t'as un fit, avec qui ils sentent qu'en fait ils vont être flexibles, ils vont s'adapter. C'est souvent un gros pain où en tout cas il n'y a pas de valeur ajoutée. Souvent les boîtes se disent bah moi j'externalise la logistique, j'ai pas de valeur ajoutée. Et effectivement, nous si on n'avait pas de valeur ajoutée sur le produit, on l'aurait pas la logistique, mais on a une valeur ajoutée sur le produit qui fait aujourd'hui notre différence avec tout ce qu'on connaît sur la qualité, et c'est aussi pour ça qu'on l'a gardé.
Ok. Et c'est quoi ces trucs que vous avez automatisés dont tu parlais juste avant?
Bah, par exemple, quand tu vas sur le site, tu peux écrire un petit mot pour dire tiens, salut Théo, bon anniversaire, ou on est content de te faire ce cadeau, parce que comme tu l'as dit, on est rentré par le cadeau de naissance, donc historiquement on a des gens, une personne A qui envoie une personne B, et très vite ils nous ont dit c'est bien de pouvoir mettre un mot. Donc avant, comment on faisait? On avait tous les petits mots, et puis on imprimait toutes les petites cartes, et puis après on disait tiens, ça c'est pour Michel, ça c'est pour Jean, ça c'est pour Pierre, et Et donc en gros, bah, on a fait du dev pour que on ait notre bon de livraison, la petite carte qui est associée au bon format. Parce que ça paraît bête, mais imprimer une feuille A4 et une carte A6 qui fait pas le même grammage, qui est plus épaisse, qui est qualitative, et une feuille A4 lambda, tout ça dans la même imprimante et que ça sorte en automatique, pour que bah, quand t'arrives et que t'expédies ta commande, ça soit hyper simple. Bah, en soi, c'est pas si simple. Et donc, faut trouver un fournisseur d'imprimante, faut faire des essais, faut voir avec ton dev qu'il te fasse les bons trucs, etc. Ensuite, c'est quand on personnalise, pour te donner un ordre d'idée, quand on personnalise, aujourd'hui, on a un process qui est différent d'un logisticien pur et dur, c'est qu'on va personnaliser en masse, parce qu'on est beaucoup plus efficace quand on fait 50 sacs à dos d'affilée, que quand on fait une commande pour un sac à dos, puis une commande pour un protège de santé, puis une autre pour un sac à dos, etc. etc. Et donc, faut pas se tromper, quoi. Tu personnalises 50 produits d'un coup, enfin, d'affilée. Théo, il a demandé Théo en doré sur un sac à dos bleu, pas Théo argenté sur un sac à dos vert. Et donc, du coup, tout ça, faut pouvoir le processer, l'automatiser pour que ça soit tous tes sacs à dos de la même couleur qui arrivent en premier, avec les mêmes personnalisations, les bonnes tailles de personnalisation sur tes produits, etc. etc. Donc, c'est plein de petites choses, mais qui en fait font que quand tu discutes avec l'équipe de l'atelier aujourd'hui, c'est hyper fluide et elles sont sans cesse en amélioration. Continue en se disant tiens, ce truc là on peut l'automatiser, on peut gagner du temps, on peut perdre on peut gagner en fiabilité, etc. Et c'est à chaque fois on progresse comme ça.
Ok, et ça ressemble à quoi l'équipe qui fait tourner un atelier?
Il y a 6 personnes aujourd'hui qui sont sur alors service client et atelier. Ça peut paraître bizarre, mais le service client il est au cœur de l'atelier, donc c'est quelqu'un qui fait d'abord le service client parce que c'est hyper important. On l'a recruté par exemple quand je suis arrivé, on a recruté quelqu'un dont le métier au début, on s'est dit il faut que ça soit service client parce que c'est notre base, il faut qu'on soit hyper fort là-dessus, et ça nous a bien servi, ça nous sert vachement aujourd'hui. Et donc elle est au cœur de l'atelier, mais elle est en fonction du volume du service client et de l'atelier, elle est je dirais moitié-moitié, et elle joue la variable s'il faut. Donc elle, et puis après 5 autres personnes qui vont faire le picking le matin, personnaliser et préparer, expédier les commandes. Et aujourd'hui tu vois, on arrive à envoyer, tu commandes avant 13h, demain tu l'as chez toi en express. On s'est dit il faut le faire avant Noël, on l'a fait avant Noël. On sait qu'avec un logisticien ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Et dès qu'on a un problème, l'avantage aussi c'est qu'au niveau qualité, on laisse rien passer. Donc t'as un problème avec ton lin qui est un peu défectueux, etc. Tu l'avais pas vu parce que ton lin, ton fournisseur de lin, tu le connais très bien, il est français, tu vas le voir souvent. Mais en fait, il y a une prod qui est un peu différente. Plutôt que d'attendre que ton client te dise ah bah au fait les gars, votre lin là, qu'est-ce qui se passe? Parce que le logisticien il l'aura pas vu, c'est pas son métier, enfin c'est pas son produit, il en a plein d'autres des produits. Et ça en fait, on s'en rend compte, et notre NPS il a fait que de monter aussi. Je pense pour ça. Donc il y a des contraintes, il y a de la gestion d'équipe, il y a de la gestion de stock, etc. Mais aujourd'hui c'est une vraie fierté de se dire qu'on l'a en interne, quoi.
Et c'est intéressant quand on parle d'entendre que, la logistique déjà, il y en a peu qui savent que ça peut être un vecteur de croissance tout court, d'être bon en logistique, mais aussi un vecteur de différenciation, pour cultiver du moins une différenciation. C'est intéressant de voir comment vous l'avez construit, qu'en fait vous ça s'imposait de fait par rapport à qui vous étiez, quoi. Il n'y a pas 1000 autres options par rapport à l'identité et à la fois la façon dont vous délivriez le produit. Du coup, j'ai envie de t'emmener sur ce second sujet qu'on a un peu effleuré avant, qui est l'ambivalence dans votre produit, à savoir qu'à la fois il s'achète par des gens qui le veulent et par des gens qui l'offrent à des gens qui pensent qu'ils vont le vouloir. Donc, comment est-ce que tu développes une stratégie d'acquisition pour vendre à ces deux personnes?
Bon, en fait, il faut d'abord se dire que nativement, pourquoi on existe et pourquoi on a été créé, pourquoi Astrid a créé la marque, c'est bien au début pour renouveler le cadeau de naissance personnalisable. L'histoire, c'est on reçoit un produit pour Prune, notre aîné, hyper touchant parce qu'en fait c'est un petit coussin avec marqué Prune. Toi, ça fait 9 mois que tu réfléchis au prénom de ta première fille et tout ça. Donc il y a une émotion qui se passe. Et puis après, tu te dis en fait ce coussin-là, il est très joli, c'est très sympa ce qu'on nous a offert, mais en fait ça va pas du tout dans mon intérieur, c'est pas du tout dans la matière actuelle, c'est pas joli. En fait, c'est pas, je me fais pas plaisir moi parent en ayant ce produit-là. Pour ma fille, ça sera sûrement sympa, mais bon, ça sera peut-être un peu tard. Et donc Astrid, elle s'est dit en fait il y a un créneau là-dessus dans la personnalisation. Qui soit pas de la broderie justement, parce qu'à l'époque c'était que broderie et un peu ringard, et qui soit pas dans des couleurs un peu criardes, qui soit des couleurs actuelles et qui soit mode. Astrid, elle vient de l'univers de la mode, et donc elle a lancé la gamme avec tout de suite une belle gamme de produits comme ça. Et donc nativement cadeau de naissance, donc c'était la marque de cadeau de naissance. Puis en fait petit à petit tu te dis quand on très rapidement on a reposé la vision de la boîte en se disant mais c'est quoi la vision? Et la vision, c'est pas d'être une marque de cadeau de naissance. La vision, c'est d'être une marque qui accompagne l'enfant de 0 à 6 ans dans tous ses instants de vie. Premier instant de vie, bah, c'est la naissance. On va pouvoir être là, mais ensuite, on va jusqu'à 6 ans. Donc, quand tu sors du bain et que tu as besoin d'un peignoir, quand tu vas à l'école et que tu as besoin d'un petit, ou à la crèche, tu as besoin d'un petit sac à dos pour mettre ton doudou, voilà, c'est comme ça qu'on accompagne. On s'est dit, bon, bah, premier levier d'acquisition, c'est le cadeau de naissance. Donc, on a tourné beaucoup de choses autour de ça, le cadeau de naissance personnalisable, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens nous connaissent souvent par le cadeau de naissance. Et notre vrai enjeu aujourd'hui, c'est de justement d'amener nos clients en leur disant, mais attendez, on n'est pas que cadeau de naissance. Donc, c'est génial, continuez de nous offrir en cadeau de naissance. Mais aujourd'hui, on a quasiment 50 produits qui vont vous permettre d'accompagner votre enfant de 0 à 6 ans dans tous ses instants de vie. Donc, l'enjeu dans l'acquisition client, c'est de montrer ton savoir-faire sur d'autres produits, parce qu'on reste avec des produits qui soient jolis, utiles, pratiques et durables. Et en fait, ça, on le décline, par exemple, tu vois, derrière moi, tu as le petit sac bowling, bah, tu vois, c'est pas du tout la naissance, mais un sac bowling quand tu vas à la gym ou quand tu vas chez tes grands-parents pour un week-end, quand tu as un petit enfant, bah, tu mets tes affaires dedans et ça marche bien. Et voilà, donc aujourd'hui, notre acquisition client, elle reste évidemment sur le cadeau de naissance parce que ça reste un moteur fort et c'est un gros axe de recherche en ligne, facilement identifiable. Et en même temps, à nos clients, on leur dit, bah, voilà, merci d'être client. Et sachez qu'en fait, on ne fait pas que du cadeau de naissance, on fait aussi beaucoup d'autres choses et on va pouvoir vous satisfaire dans les instants de vie de vos enfants.
Comment tu fais pour garder la relation avec une personne qui s'est vue offrir un petit picotin, mais en cadeau ? C'est-à-dire qu'à la base, si je dis pas de bêtises, tu n'as pas son email quand l'achat est effectué. Donc tu peux pas travailler par email. Enfin, comment tu vois ça du coup ?
Alors là, bah, on parlait de la logistique, mais c'est quelque chose d'assez basique, mais en tout cas qui marche beaucoup chez nous. Et la viralité, elle a marché comme ça. La viralité, elle marche évidemment par ton produit d'abord, par le fait que quand tu l'as dit, t'acquiers un client, t'en acquiers potentiellement deux. Mais ce deuxième, comment tu vas vraiment l'acquérir ? Est-ce qu'il va regarder l'étiquette qui est sur ton produit ? Oui, peut-être. Mais en fait, nous, on s'est dit, bah, notre boîte cadeau ou notre colis, quand on l'envoie, il va y avoir une émotion, il va y avoir cette expérience client qui va faire que c'est marquant. Et en fait, bah, aujourd'hui, tu vas recevoir un colis, tu vas avoir un carton qui est brandé petit picotin, ou une pochette craft, recyclable, etc., qui s'est brandé petit picotin. Ensuite, tu ouvres ta pochette, bah, tu as un pochon petit picotin avec un coton qui est fait en Espagne, etc. Brandé petit picotin, ce pochon-là, tu vas le réutiliser parce que tu vas mettre, je sais pas, les culottes de ta fille, tu vas mettre, enfin, tu vas pouvoir te réutiliser pour plein d'autres choses. Et ensuite, tu ouvres ton colis, bah, tu as un beau colis, tu pas de plastique, et dedans, tu as une petite carte que ton copain ou ta copine t'a mis avec un petit mot et petit picotin qui est marqué en bas. Et dernière chose, et ça qui nous aide pas mal, c'est on met à chaque fois un dépliant. C'est pas juste une feuille à 4 avec marqué petit picotin. Ce dépliant, il donne un aperçu très rapide de ce qu'on sait faire et ce qu'on est. Donc c'est comme ta homepage en gros sur un site, sauf que là c'est du physique et globalement le client il ouvre, waouh, c'est inspirant, c'est joli, et c'est quoi? Bah, c'est petit picotin, et du coup je vais comme ça aller sur petitpicotin.com et j'ai vécu une super expérience. Donc soit bah, je vais aller refaire la même à un autre, soit bah, je vais regarder, ils font des trucs dont j'ai envie de m'acheter et du coup je deviens client.
Ok, donc en fait c'est ce qu'on peut appeler un bétonnage de l'expérience client. En fait, un truc de A à Z où quand on reçoit la chose, on n'est pas juste en train de recevoir un cadeau, mais on a envie de s'intéresser à quelle marque nous a permis d'avoir cette expérience-là. Est-ce que tu m'as donné une stat de ouf quand on a préparé cet épisode ensemble, c'est que 50% de vos achats sont faits par des repeaters, donc des gens qui ont déjà acheté chez vous. T'estimes que c'est quoi les principales raisons pour ça? Bon, allez, je pense qu'on peut en retirer deux grosses, qui est qualité du produit et expérience. Si tu veux rajouter des choses là-dessus ou alors nous en donner d'autres, qu'est-ce que t'en penses?
Qualité expérience, tu l'as dit. Alors repeater, ça ne fait que s'accélérer. Si tu me demandais la même question il y a un an, je t'aurais pas donné les mêmes stats, parce que globalement plus la communauté grossit et plus le. Mais là, effectivement, sur les 5 derniers mois, à chaque fois, on est à plus de 50% des commandes qui sont des repeaters. Et je crois qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est liée à la qualité, mais c'est notre animation du NPS. Comme toute marque, enfin je pense, en tout cas, c'est ceux qui ne le font pas, il faut le faire. À chaque commande, on envoie une enquête de satisfaction avec une boîte qui s'appelle Did You Enjoy et on vient poser 5 questions. Donc c'est très rapide, c'est les smileys. Et après, la dernière, c'est évidemment, recommanderez-vous petit picotin de 0 à 10? Et en fait, là-dessus, bah, cette question-là, on a un score là sur depuis... 2022, on est à 89. Donc c'est beaucoup plus dur hein, que les étoiles. Hein. C'est pas les étoiles 1 à 5 étoiles. Non, c'est pondéré. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail du calcul du, voilà, du NPS. Et tous les ans, on est arrivé, quand je suis arrivé, on était à 77. Et c'est là où on s'est dit, bon, on recrute quelqu'un qui va être que sur le service client. Et dans les questions qu'on pose, c'est est-ce que ça a été simple de rentrer en relation avec le service client ? Est-ce que l'usage du site et la facilité à acheter est bonne, etc., etc. Et à chaque fois, on est venu prendre tous les retours clients et les décortiquer en se disant « mince, ça bloque parce qu'il nous dit ça, il nous dit ça ». Avant, on a beaucoup évolué, on avait le prix du produit, puis on rajoutait la personnalisation, on payait 6 euros, puis la boîte cadeau, puis etc., etc. Et ça, nos clients nous disaient « bah ouais, mais c'est génial, mais je suis attiré par un produit à 35 euros et je m'en ressors avec 50 euros ». Et du coup, bah, étude client, et on a réintégré le prix de la personnalisation dans le produit. Et donc on est sans cesse là-dessus. Et pour te dire, on lance l'intéressement chez Petit Picotin. Donc tu vois, 5 ans, on lance l'intéressement. Un des critères d'animation de l'intéressement, c'est le NPS. Et donc ça, c'est toute la boîte qui travaille autour de c'est quoi notre NPS ? Qu'est-ce que nous disent nos clients ? Il y a un moindre souci, on règle le problème. On veut être irréprochable sur le produit, sur l'expérience. Donc ça reprend ce que tu as dit, mais je pense que enfin, moi j'encourage vraiment tous ceux qui ne le font pas à lancer ces enquêtes de satisfaction sur chacun. C'est toujours, on se dit toujours ouais mais personne répond. On a déjà plus de l'année dernière on a reçu alors sur les soins, on a reçu plus de 6500 avis, donc un peu moins de 10%. Donc c'est en soi tu peux te dire c'est pas beaucoup, mais t'as beaucoup de repeaters et puis t'as des gens ils t'ont déjà donné l'avis il y a 2 ans, donc ils ont pas envie de te redonner l'avis. Mais dès qu'il y a quelque chose, du coup ils te le disent en super positif et en donc ce truc là il est clé quoi. Enfin, l'expérience client pour moi, mais ça c'est vrai partout. Hein. Ça passe par écouter son client, qu'est-ce qu'il te raconte, de quoi il a envie, qu'est-ce qui lui va pas, pourquoi ça. Et puis ça tu réitères et puis ça marche.
Et c'était quoi les actions les plus déterminantes sur l'augmentation de ce NPS ?
Bah, recrutement d'une personne qui est dédiée au service client. Avant, c'était une personne de l'atelier, tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle. Tu mets en place un chat. Un chat pour que, en fait, t'es là, t'es ouvert de 9h à 18h, il y a un chat, on te contacte. Téléphone ou chat, on te contacte. Rien que ces deux choses-là, ça veut dire que quand quelqu'un a une demande entrante, tu y réponds, t'es réactif, quoi. Nous, ce qu'ils nous disent tous, nos clients, c'est putain, c'est hyper rapide. Aussi bien la relation avec le service client que l'envoi de la commande où je l'ai hyper rapidement. Ensuite, c'est, je t'ai donné l'exemple de la personnalisation qui a été on l'a vu, en fait, par l'augmentation du taux de transfo quand on a fait ça. Alors ça, typiquement, tu vois, tu me demandais qu'est-ce qu'on a mis en place. Ben, moi, c'est les trucs que j'ai regardés, j'ai analysé. Et puis, je me suis dit, bon, on lance ça. Donc, on intègre le prix de la personnalisation. Et puis, on va suivre un truc, c'est le taux de transfert. Si on arrive à mieux transformer, c'est que globalement, c'est positif. On a mis en place, on nous disait souvent, ouais, mais en fait, j'aurais reçu un cadeau, mais je sais pas de qui c'est. Ah oui, pas bête. Est-ce que dans notre tunnel d'achat, on a quelque chose qui vient redire à celui qui offre, attention, n'oubliez pas de préciser de la part de qui c'est. Donc on a fait un beau design avec une page dans le tunnel d'achat qui permet de te dire, vous allez offrir ça, voilà, la petite carte qu'on va écrire, et n'oubliez pas de signer. Bon bah du coup, t'as moins de retours clients, t'as moins de retours qui disent, bah c'est à cause de qui, t'as moins d'entrées. Et aujourd'hui, pour envoyer 60 000 commandes, on a une personne qui est à mi-temps, mais qui va évidemment sur des pics monter. Et on a internalisé la logistique et on a réduit son temps au service client. Donc elle a plus de temps sur l'atelier.
Ah ouais, non, c'est vraiment. Et en plus, vous avez en fait cette boucle de feedback qui est continuelle, à savoir même s'il n'y a jamais un truc qui déconne ou vous découvrez une nouvelle chose, ça va forcément ressortir dans votre petite enquête là, que vous envoyez après. Tu peux nous donner les 5 questions par curiosité ? Tu nous en as donné 2. Je ne sais pas si elles te reviennent comme ça.
Les 5 questions, c'est. Je pourrais te les redonner exactement, mais c'est. Est-ce que ça a été facile de commander sur le site ? Est-ce que le produit correspond à vos attentes ? Est-ce que l'expérience de livraison s'est bien passée ? Est-ce que la relation avec le service client était fluide ? Et non, la cinquième, c'est recommanderiez-vous Petit Picotin de 0 à 10 ? Et enfin, je vous encourage et je vous mettrai en relation avec cette boîte. En tout cas, c'est Did You Enjoy. C'est génial, c'est des smileys, c'est facile. Les clients, ils te répondent sur texto en 30 secondes, même pas. Et après, ils viennent mettre un commentaire. Et c'est là où on a du détail. Et là, on est en train de travailler pour afficher, parce qu'on a un truc à penser, par contre, c'est demander l'avis au client pour pouvoir le publier, cet avis. enfin de demander l'accord au client. Parce qu'aujourd'hui, on a je sais pas combien d'avis, on a des super notes, mais globalement, on n'a jamais demandé à le publier. Donc on peut pas le publier sur notre page. Donc là, on va devoir recommencer à zéro avec les futures enquêtes là, où on va demander au client de nous dire est-ce que vous êtes d'accord pour publier cet avis, et on va créer une page, parce qu'on en est vraiment fier de ça, et sauf qu'on le met pas en avant. On a notre page Google qui le dit, mais les clients vont pas tous sur Google pour regarder la page des avis clients.
Super intéressant. Bon, a priori, avec le volume de personnes qui répondent à ces questionnaires, vous devriez avoir quelques petits avis qui vont tomber rapidement, même en repartant de zéro. J'aimerais parler ensuite d'Instagram, qui est un des leviers qui vous a beaucoup porté au démarrage. Tu m'as parlé de plusieurs choses, on en a discuté, à la fois le fait d'envoyer beaucoup de cadeaux et de se concentrer sur la nano-influence. Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, assez basiquement sur la partie cadeau, comme toute jeune marque qui commence, c'est compliqué. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Mais tu te dis comment je vais essayer de me faire connaître. Donc j'envoie des cadeaux à des personnes qui ont de l'influence et je pense qu'elles vont pouvoir aimer mon cadeau. Et donc voilà, donc ça c'est un mécanisme assez basique, mais qui a le mérite de fonctionner. Surtout, je pense, en tout cas nous, notre vision, ça a été surtout au début, ça nous a un peu aidé. Et puis l'autre chose, ça revient à la qualité de ton produit, et surtout le fait que ta communauté en fait est fière de montrer ton produit. Et c'est pour ça qu'on parle de nano-influence, c'est que très vite ils nous ont tagué et on a été identifié dans beaucoup de posts, et après c'est l'effet viralité et boule de neige, et en fait on les a pas incentivés à faire ça. Et ça je pense que ça revient au mon produit, il est bon, donc les clients ils sont fiers de le poster. Et il y a ce côté mode, déco, d'arriver sur un univers où en fait les gens sont fiers de montrer leur enfant avec un beau produit. C'est vrai que c'est la nano-influence, et je sais qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se font là-dessus, sur comment on peut incentiver ou pas notre communauté. Nous, on le fait maintenant un peu différemment, mais on le fait avec toutes les semaines, on fait gagner un bon d'achat en tirant au sort les photos des clients sur Insta qui nous ont identifiés. Et on tire au sort, et on dit aujourd'hui c'est toi qui as gagné 25€. Et du coup, ça aide à ce que les gens parlent de toi. Et donc on commence à incentiver notre communauté, mais ça date de un mois.
Aujourd'hui, comment elle a évolué cette stratégie ? Vous le faites toujours, ça, d'envoyer des cadeaux à des influenceurs ?
On le fait toujours, oui. On le fait toujours. On a, c'est évidemment un nouveau métier qui a commencé il y a 5 ans, mais qui est là. Il y a beaucoup d'influenceurs, influenceuses. Alors, c'est moins ma partie, mais de ce que je vois, c'est que en fait, on a. Tu peux avoir vraiment des super retours et des vrais influenceurs qui ont vraiment de l'impact, avec une vraie impact sur la communauté, donc sur ton réseau, tes followers. Et d'autres où c'est vraiment, du coup, c'est la jungle, quoi. En fait, t'en as, tu leur envoies des trucs, et puis t'as plus de son, plus d'image. Ils ont reçu tes produits, et puis plus de son, plus d'image. Puis tu sais pas pourquoi. Alors les filles, elles les relancent, etc. Et puis, ou alors, une story où on voit à moitié ton produit, alors que la même personne va être fan de ta marque, poster, reposter. Donc là, on commence à faire des partenariats un peu plus long terme, en disant en gros, est-ce que vous voulez être celle qui va pouvoir montrer en avant-première nos produits, etc. Mais ça reste très à la marge. Et c'est compliqué, je trouve que c'est compliqué. On est en train de regarder ce qu'on fait avec des mécanismes de... Enfin, il y a plein de choses qui existent là-dessus, mais j'entends, pour avoir pas mal parlé à d'autres boîtes, c'est jamais simple, quoi. Donc on continue, parce que c'est important, hein. C'est ton produit quand même que tu diffuses, mais on reste prudent.
Ouais, parce qu'en fait, c'est un canal qui est en train de pas mal changer aussi, le marketing d'influence, au même titre un peu que, de toute façon, la pub sur Facebook, etc., dont on va parler juste après. Cette stratégie, en fait, c'est un peu d'ailleurs une situation bizarre où elle fonctionne moins bien qu'avant, mais pour le coup, tout le monde continue de le faire, parce que ça reste incontournable, en fait, finalement, de montrer son produit à plein de gens, et que ça assure quand même de se faire découvrir par des nouvelles personnes. C'est un petit peu comme la pub Facebook. Aujourd'hui, vos nouveaux clients, donc les nouveaux, hein, pas les repeaters, ils vous découvrent comment ?
Aujourd'hui, les réseaux... Referral, on en parlera, mais ADN, ADN de la boîte cadeau de naissance, donc les sites de liste de cadeaux de naissance. On a beaucoup du trafic qui vient de ces sites-là. Ça c'est une chose, mais c'est lié au cadeau de naissance. Après, c'est nos réseaux et Insta en priorité. Le référencement naturel sur Google, donc le SEO qu'on travaille déjà depuis de bonnes années maintenant, et tu sens que c'est un travail de longue haleine, mais on s'améliore en position. Ça nous génère. Aujourd'hui, on a 60-65% de notre trafic qui vient soit de l'organique, soit du direct. Donc, et la première part de marché, c'est l'organique. L'organique, soit parce qu'il parle de ta marque, donc c'est là où, soit il tape Petit Picotin, donc là c'est de la viralité, c'est le bouche à oreille, c'est ce qu'on essaye de mesurer par ça, soit parce qu'on est positionné sur les mots-clés qu'on travaille depuis 2 ans, et puis le direct par nos newsletters, parce que newsletter ne veut pas forcément dire qu'ils sont clients, donc ils deviennent clients par là. Et puis ensuite, ouais, les ads, hein, Google et. Facebook, Insta, globalement c'est par là et on commence, excuse-moi, l'acquisition par le physique, par nos, c'est impossible impossible de le mesurer, peut-être par le fait qu'il tape Petit Picotin sur Google, le fait qu'on soit revendu chez des revendeurs, ça fait diffuser ta marque, mais autrement, dont la traçabilité est plus dure.
Tu m'as tendu la meilleure des transitions, hein. Tu m'as tendu une super transition pour parler du dernier sujet. Juste avant, je voulais te demander si tout était géré en interne ou si vous avez des prestats.
Non, alors pour le coup, je gère beaucoup de choses en interne, mais sur tout ce qui est agence, on passe par une agence web pour le SEO et SIA. On a une agence web pour notre site. Aujourd'hui, dans la boîte, on n'a pas de métier tech. On a de la com, on a des métiers autour du produit, chef de produit, com, mais on n'a pas de métier sur ces métiers-là où ils sont externalisés et des gens qui le font super bien. Donc, voilà. On a fait le choix là et on est content.
Nickel. Écoute, dernier sujet de ce podcast qui va être tout ce que vous vendez hors de votre site internet, donc en physique à la fois. Donc on va parler de pop-up et aussi de revendeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche pour trouver Petit Picotin dans le réel?
Ouais, moi je viens de l'univers du physique, donc j'ai fait 7 ans en magasin chez Leroy Merlin, donc le physique c'est quelque chose que j'aime bien. Et avec Astrid avait déjà lancé on était sur des salons de créateurs, etc. au début, quand t'es une petite marque, on avait fait pas mal. Et puis on a fait une grosse expérience en direct avec nos consommateurs, mais via un pop-up. On a fait 4 mois de pop-up au Batignolles dans le 17e à Paris. Première expérience qui nous a fait dire, qui était super positive et qui nous a fait dire, en fait, tu fais de l'acquisition client un peu différemment. C'est que tes clients web, malgré tout, ils sont pas forcément les mêmes que ceux physiques. Alors ça, ce que je dis, c'est un peu bateau et c'est pas tout à fait vrai, mais globalement, on s'est rendu compte en faisant notre pop-up que 80% des gens qui rentraient dans la boutique nous disaient, ah ouais, je connais Petit Picotin. Soit parce que ils avaient vu un produit, soit parce qu'il l'avait entendu sur les réseaux, les pubs, etc. Il savait pas exactement pourquoi. Hein. Quand il passait en caisse, il y en avait que 30% qui étaient en base client. Donc là, on s'est dit, waouh, en fait, t'as quand même quelque chose qui se passe, c'est que quand il voit tes produits, quand il touche ton produit, on a beau te raconter que le pyjama, il est tout doux, il est en peau de pêche, etc. dans une newsletter, malgré tout, tu sais que quand tu vas le voir en physique et que tu vas le toucher, tu vas faire waouh. Et ça, tu pourras pas le trouver. Et donc à partir de là, on s'est dit, il y a une super expérience en physique. Bon, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à avoir des boutiques? On va peut-être pas y aller tout de suite. Je sais qu'on ira, mais on va pas y aller tout de suite. On va d'abord commencer par ceux qui ont la force de frappe, qui sont les concept stores de revendeurs, qui sont des revendeurs multimarques physiques. Et pourquoi? On est en autofinancement et c'est des gros investissements d'ouvrir des boutiques et on s'est dit on va d'abord aller conforter notre vision du physique avec ceux qui sont très bien placés dans les villes et qui connaissent, qui ont déjà la clientèle et qui vont pouvoir nous faire des retours sur qu'est-ce qui se vend en physique, qu'est-ce qui se vend pas en physique, et on voit que d'ailleurs c'est différent. Et donc ça c'est la première brique. Et en fait, on commence à faire de l'acquisition client, mais différemment. Et la deuxième brique, ça sera, on aura probablement un pop-up dans un des grandes surfaces où là, on sera en direct avec nos clients, mais toujours via un pop-up. Et ensuite, je pense un ou des magasins. En tout cas, tu sembles bien pouvoir mailler le territoire et ton client et toute typologie de client, quoi.
Je vais t'interroger plutôt sur la partie pop-up. Comment qu'est-ce qu'il y a derrière en fait l'ouverture d'un pop-up sur le choix du lieu? Qu'est-ce qu'on met dedans? Combien de temps ça dure? Comment vous avez réfléchi à ça?
Le choix du lieu, première chose. C'est pour nous, t'es dans un lieu où il y a du trafic qualifié, enfin, tu vois, c'est toujours la même chose et c'est les mêmes mécanismes, ça reste du business, forcément tu vas avoir un meilleur retour. Donc nous on était au Batignolles, dans la rue des Batignolles, et on sait que c'était une population et notre cible CSP+, avec des jeunes parents ou des jeunes grands-parents du 17e. Donc ça déjà le lieu. Ensuite De la même manière que sur ton site, c'est important que quand la personne arrive, elle y soit bien. Enfin, ça soit, enfin, nous, en tout cas, notre vision, c'est que ça soit inspirant. T'es là pas que pour vendre des produits, t'es aussi pour vendre quelque chose, une marque. Et donc, pareil dans ton univers physique. Qu'est-ce qui fait que ta boutique, quand t'arrives, c'est joli, ça te donne envie, tu peux toucher les produits, il y a un mobilier qui est sympa. Donc ça a été le deuxième critère. Et le dernier critère, c'est... Le vrai enjeu des commerçants physiques, c'est qu'est-ce que tu fais pour que ton client y revienne te voir et quelle valeur ajoutée tu as à lui proposer. Et nous, on leur proposait le fait d'avoir une personnalisation en plus qui soit sur place. Alors quand il n'y avait personne, on personnalise ton produit en 15 minutes. Quand il y avait du monde, du coup, on prenait ta commande et soit tu l'avais le soir, soit tu l'avais le lendemain. Et en fait... Là, tu as une émotion qui se passe, tu as quelque chose qui se passe quand tu arrives en boutique, tu as un bon contact avec le vendeur, les produits sont jolis, c'est inspirant, même si c'est une petite boutique. On n'a pas fait un pop-up en se disant on monte une pancarte, on ouvre la boutique, ça y est. On s'est dit si on fait un truc, on le fait bien et on le fait à fond, et on va le faire 4 mois, mais à fond, 4 mois. Et je pense que c'est les enseignements, mais après, nous, on est un peu comme ça, on est un peu jusque bouti sur on veut que ça soit parfait, mais on l'a fait dans cette mesure-là, donc emplacement. Qualité du merch et ton merch physique et expérience client, relation vendeur et expérience émotionnelle. Quoi.
Qu'est-ce qui vous fera passer la barre de... Je fais plusieurs pop-up. Là maintenant je m'installe en physique et j'ouvre une boutique.
Je pense que la barre, elle est... La barre, là, c'est... La prochaine barre, c'est le magasin. On a eu notre test du pop-up nous a conforté dans l'idée que il y avait de l'intérêt. Et la barre, c'est je crois que c'est un vrai pour avoir discuté avec une marque qui s'appelle Fago, que disait Nico, il me disait si t'as une boutique, soit t'en ouvres une, soit t'en ouvres 10, mais c'est pareil. Donc si t'y vas, vas-y pour 10 ou 100. Donc je pense que aujourd'hui on se dit qu'on a vraiment trop de trucs à faire sur le digital, donc on est encore là-dessus et en même temps on a nos réseaux de revendeurs. Et je crois que c'est juste l'accélérateur, c'est est-ce que c'est l'année prochaine ou l'année d'après, mais on est dans une vision court terme quand même sur l'ouverture des boutiques.
Ok, écoute, merci beaucoup Olivier, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai promis que ça durerait moins d'une heure, donc là il est 17h53, à 18h tout sera terminé. Je vais te poser la toute dernière question. Déjà aussi merci beaucoup d'avoir répondu à toutes celles d'avant. Est-ce qu'il y a une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance?
C'est marrant parce qu'on parle du physique et du digital, et Balzac Paris, qui est une marque qu'on connaît bien, et je vous invite à regarder ce qu'ils font. C'est une marque pour femmes et enfants maintenant, et ils sont digital natives, et là ils vont ouvrir un gros magasin en propre dans le 10e. Et voilà, je pense qu'ils ont fait pas mal de pop-up, ils ont quelques temps d'avance sur nous, donc on fait pas la même chose, mais ils sont inspirants et c'est une super boîte.
Super, merci beaucoup Olivier, je vais te laisser le mot de la fin pour clore ce podcast en disant où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver Petit Picotin, et ensuite on pourra clore cet épisode.
Merci Théo. Où est-ce qu'on peut nous retrouver? Petitpicotin.com, aussi bien pour vous faire plaisir, si vous avez des enfants de 0 à 6 ans et que vous avez envie de jolies choses dans des matières naturelles et dans une production au maximum locale avec une personne qui va en interne vous personnaliser vos produits, faites appel à nous. Et ensuite vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur notre page Petit Picotin, ou moi me contacter, Olivier Geffroy, sur LinkedIn, avec plaisir pour échanger. Et puis toutes les teams, pour ceux qui sont nantais, vous accueillent avec plaisir à l'atelier pour venir voir nos produits et notre équipe de choc, que je remercie d'ailleurs au passage parce qu'on a une super team.
Ouais, super, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice et pour cette heure de ton temps. C'était super intéressant, je suis très content. T'as eu une expression très structurée. Écoute, j'ai pris plein de notes et je pense que j'en ferai une petite fiche derrière pour moi, petite perso. Donc merci beaucoup. Je vais dire au revoir à nos auditeurs tranquillement et leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Ciao à tous et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.